Nous sommes le jeudi 11 juin, Bernadette Chamonaz, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, policier, place Beauvau, le divorce, c'est une profession blessée, écœurée par ces dernières annonces que le ministre va recevoir aujourd'hui. Témoignage dès le début de ce journal, après les autres titres, Bernadette.
Gabriel, 14 ans, blessé lors de son interpellation, le défenseur des droits ouvre à son tour une enquête. Les rues au nom d'esclavagistes, faut-il les débaptiser ? Le débat est maintenant ouvert en France. Municipal focus sur la plus grande commune de France, Arles. Quel tourisme après le Covid ? L'exemple de Lourdes, hydrogène, l'ambition allemande. Enfin, tous au plongeoir, c'est la ruée sur les piscines.
Et les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec vous, Léa.
Le gouvernement prévoit des centaines de milliers de pertes d'emplois dans les prochains mois. Mais quelle sera l'ampleur de la catastrophe économique ? A-t-on déjà des modélisations sur plusieurs mois ? Comment ça va se passer à l'automne ? Comment on va s'en relever ? On pose toutes ces questions à la chef économiste de l'OCDE. Laurence Boone sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, nous recevons tous les deux dans le grand entretien de la matinale l'historien de la littérature et professeur au Collège de France, Antoine Compagnon, à l'occasion de la parution d'Un été avec Pascal aux éditions Les Équateurs. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est la phrase qui ne passe pas. La suspension du policier sera systématique en cas de soupçon avéré de racisme. Avec cette annonce, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est en quelques instants coupé des forces de l'ordre. Soupçon avéré, formule insupportable pour la profession. Douter, il en restera toujours quelque chose. Et le ministre a eu beau tweeter ces dernières heures son estime pour les forces de l'ordre. Trop tard, lui répond le secrétaire général du syndicat des officiers Synergie, CFE-CGC, Patrice Ribeiro.
Je crois qu'aujourd'hui, il y a une panique au plus haut niveau de l'État parce que le ministre de l'Intérieur, mais pas seulement lui, vraisemblablement le président de la République, se rendent compte de l'émoi et de l'écœurement qui circule aujourd'hui dans les rangs de la police nationale, quel que soit le grade, et je pense qu'il est en train de rétro-pédaler. Christophe Castaner a, dans la précipitation, fait des annonces qui laissent à penser que les gens qui nous fustigent, qui nous stigmatisent, qui nous conspuent, finalement ont eu raison au plus haut niveau de l'État. Et on le voit déjà, on a au quotidien, dans toute la France, des collègues qui se sont abstenus de poursuivre des véhicules, qui se sont abstenus d'interpeller des individus qui les insultaient. On n'a pas connu ça depuis des années. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie rupture entre le ministre de l'Intérieur et les policiers de terrain.
Et ces propos cinglants recueillis par Emmanuel Leclerc, les syndicats les rediront certainement aujourd'hui au ministre qui les reçoit. Dans l'affaire du jeune Gabriel, le défenseur des droits a décidé d'ouvrir une enquête. Cet adolescent, interpellé alors qu'il tentait de voler un scooter, accuse les policiers de l'avoir frappé alors qu'il était au sol. Maître Stéphane Gasse, son avocat, joint par Jean-Philippe Deniaud.
C'est une avancée significative, mais c'est d'abord et avant tout la place naturelle du défenseur des droits. Pour une raison extrêmement simple, c'est que l'une des 5 missions officielles du défenseur des droits, c'est précisément de veiller à ce que la déontologie des forces de sécurité soit scrupuleusement respectée. Évidemment, il ne faut pas se mentir, le climat ambiant est favorable au fait qu'on ne laisse pas ce genre d'actes impunis. Et j'ose espérer que quand un garçon de 14 ans se fait passer à tabac dans le cadre d'une interpellation, il n'y a pas besoin que les médias s'y intéressent pour que la justice passe.
Et de leur côté, les policiers affirment avoir accidentellement chuté sur le jeune Gabriel. Enquête du défenseur des droits s'ajoute à celle déjà ouverte par le parquet.
France Inter, il est 7h04. États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, des statues de négriers déboulonnés. Et en France, Bernadette ?
Eh bien, en France, la question se pose pour les rues portant les noms d'esclavagistes qui ont fait fortune avec la traite des Noirs. Et il y en a encore beaucoup. Faut-il les débaptiser ? Le débat est ouvert, Béatrice Duguet.
Ces rues, ces places, ces squares, l'association Mémoire et Partage ne veut pas les débaptiser, plutôt en faire des lieux d'histoire avec plaques explicatives. Carfa Diallo, le fondateur de l'association, milite pour cela depuis une dizaine d'années.
Ça nous semble beaucoup plus efficace, puisque si on débaptise les rues, on efface la mémoire. Les musées, les livres ne sont pas des espaces démocratiques, alors que l'espace public, la signalétique urbaine, est l'espace démocratique par essence.
Square Rasteau, Square Giraudeau, rue Admiraux, à La Rochelle par exemple, 6 lieux portent le nom d'armateurs qui ont bâti fortune et renom sur ce commerce triangulaire au XVIIIe siècle. Il y en a beaucoup d'autres, à Nantes, au Havre, Lorient, Saint-Malo, Bordeaux bien sûr, Paris aussi avec sa rue et sa station de métro du Gommier, fervent partisan de l'esclavage. malgré les sollicitations, aucune ville n'a installé pour l'instant de plaque informative, une forme de déni pour Carfa Diallo.
La France a débaptisé après la Seconde Guerre mondiale les rues Daladier, Pétain, Laval. Eh bien, nous demandons à ce qu'au moins une rue de Négrier soit débaptisée et que pour le reste, eh bien, que ces rues soient accompagnées de panneaux explicatifs. La jeunesse du monde d'aujourd'hui a besoin que des symboles puissent répondre à son exigence d'une société plus respectueuse des droits humains et notamment de ceux des Noirs.
Un mot dièse explique ta rue de Négrier à Fleury il y a 3 ans. Il pourrait pertinemment renaître au vu de l'actualité du moment.
Dossier signé Béatrice Duguay, retrouvé sur franceinter.fr. La génuflexion de la colère, le geste symbole. Après la mort de George Floyd, la Fédération américaine de football a décidé qu'il n'était plus interdit de s'agenouiller pendant l'hymne national, une façon de s'associer aux manifestations antiracistes.
Il est 7h06, déconfinement, nouvelle étape.
Elle sera marquée par l'allocution d'Emmanuel Macron à la télévision, à la radio, sur France Inter, notamment dimanche soir à 20h. Alors que le conseil scientifique confirme la circulation du virus a fortement ralenti, le président de la République devrait se féliciter du déconfinement qui se déroule plutôt bien et se projeter vers l'avenir. Ce monde d'après sera celui de la crise économique. Il pourrait y avoir dès cet été 800 000 nouveaux chômeurs et un secteur qui pourrait servir de moteur de la reprise. Le tourisme a du mal à redémarrer. Il doit même se réinventer. Reportage de Philippe Lefebvre dans la ville qui compte proportionnellement le plus grand nombre d'hôtels après Paris, Lourdes.
Les rues où habituellement se pressent des dizaines de milliers de pèlerins sont aujourd'hui bien vides et seuls 4 hôtels sur les 140 que compte Lourdes restent ouverts pour recevoir quelques rares clients. C'est le cas de Pascal Martin, le propriétaire de l'hôtel Beau Séjour.
C'est insignifiant, c'est quasiment 10% de taux d'occupation, donc qui ne permet pas de faire face aux échéances, qui ne permettra pas de fonctionner.
Et dans la cité mariale, les pertes s'accumulent, y compris dans le sanctuaire, reconnaît Mgr Ribadeau Dumas, le recteur du lieu.
L'économie du sanctuaire repose uniquement sur le don des pèlerins. À la fin de notre exercice, nous aurons environ une perte d'exploitation de l'ordre de 8 millions d'euros.
Mais à Lourdes, ils sont nombreux à croire à une renaissance qui passerait moins par les pèlerinages, mais plus par le sport. C'est le cas de Patrice Bordère qui loue des vélos.
On surfe sur l'image du vélo et nous travaillons sur des projets vélo pour devenir véritablement un carrefour international de vélos.
Une nouvelle image pour un tourisme différent, c'est aussi ce qu'espère Cécile Delaumône qui est guide.
Les gens vont peut-être être à la recherche de quelque chose de plus individualiste, donc moins ce tourisme de masse des sanctuaires. Et vont chercher à découvrir le côté pittoresque de Lourdes et son côté historique.
Une petite révolution dans une ville qui reçoit en moyenne 3,5 millions de pèlerins par an, dont 60% d'étrangers.
Reportage de Philippe Lefebvre. Avenir économique, la grande peur aussi chez nos voisins d'Outre-Rhin, que l'on découvre soudain dépensier, plan de relance de 130 milliards d'euros. Et là encore cette question, quel virage amorcer pour éviter le mur? Alors que l'un de ses fleurons, l'industrie automobile, est mal en point, l'Allemagne mise, Ludovic Piétenu, sur l'hydrogène.
L'ambition de l'Allemagne, devenir le numéro 1 mondial des technologies de l'hydrogène. Jouer un rôle de pionnier, disait hier le ministre de l'économie, comme nous l'avons fait il y a 20 ans avec les énergies renouvelables. Peter Altmaier porte une cravate verte, symbole du virage de la même couleur pris par Angela Merkel au cours de ses 15 ans de mandat, avec 2 décisions majeures. La sortie du nucléaire, ce sera fait dans 2 ans, et la sortie du très polluant charbon, mais pas avant 2038. Ce pari sur l'hydrogène doit permettre de compenser cela, d'autant que cette technologie permet quelque chose que l'Allemagne ne peut pas réaliser aujourd'hui, stocker l'énergie produite par les renouvelables, qui cette année représente plus de 40% de la production d'électricité. L'hydrogène autorise donc une montée en puissance des renouvelables. Le gouvernement allemand met 7 milliards d'euros sur la table pour produire d'ici 2030 5 gigawatts d'hydrogène issus de ses sources d'énergie propres. À titre de comparaison, la France, il y a 2 ans, avec Nicolas Hulot, présentait un plan hydrogène de seulement 100 millions d'euros. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
En France, à moins de 3 semaines du second tour des municipales, avec vous Olivier Martoc, focus, c'est le cas de le dire, sur la capitale de la photo, Arles. Après 3 mandats, le maire communiste ne se représente pas et la bataille fait rage entre son dauphin et un ancien président de France Télévisions.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux finalistes ne s'apprécient pas. Patrick de Carolis a créé la surprise en arrivant en tête au premier tour.
Nous avons là un système clientéliste qui essaie de survivre par l'intermédiaire d'un héritier.
Arrivé second, Nicolas Coucas, l'actuel adjoint aux finances, n'est pas tendre non plus.
On n'a pas besoin d'un homme providentiel avec un carnet d'adresses. D'ailleurs, il n'en a pas de carnet d'adresses.
Au-delà des personnalités, il y a les programmes. Patrick de Carolis veut sortir Arles du tout culture.
Le modèle que nous avons eu pendant 25 ans ici était fondé sur 3 mois d'été. Donc il faut étendre ce modèle économique à toute l'année.
Nicolas Coucas assume le positionnement culturel et se veut rigoureux sur les finances, son domaine de compétence au sein de l'équipe municipale sortante.
On a perdu beaucoup de recettes du fait de cette crise et donc il nous faut préparer un plan résilience adapté à tous les territoires et les hameaux de la ville d'Arles.
La grande difficulté pour les candidats, c'est la superficie de la ville, cette fois Paris, et les populations très différentes qui cohabitent, galeristes, intellectuels et acteurs du tourisme dans le Arles historique, éleveur de taureaux, cultivateur de riz, dans la Camargue, la distance entre les deux bureaux de vote les plus éloignés est de 45 km. Arles, Olivier Martoc, France Inter.
Après 2 mois de confinement, les Français se ruent sur les piscines. Ils la veulent chez eux, en tous les cas ceux qui ont les moyens. Chez ce fournisseur, Julie Paco, les demandes ont augmenté de 30%.
Astrid, responsable de magasin, n'a pas une minute à elle.
Piscine des Joyeux, Astrid, bonjour.
Entre les appels et mails pour des conseils, les clients en magasin, les devis à envoyer. Ici, les commandes ont commencé à déferler dès fin mars.
Les gens étaient confinés chez eux, ils ont rêvé, ils avaient le temps d'y penser. Je suis déjà arrivée là, ce mois-ci, à plus de 100 personnes par jour. Malheureusement, on n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Là, si on nous demande une piscine aujourd'hui pour cet été, c'est plus possible.
Des piscines qui demandent donc un peu de patience et un budget de 30 à 40 000 euros. Tout de même, mais Valérie, elle, avait envie de se baigner sans attendre.
On a pris un spa à 6 personnes, à 600 euros. On avait envie de se détendre et en même temps se rafraîchir. On n'a pas prévu de date de vacances. On reste plus à la maison, donc ça sera utilisé cet été. Pas mal, je pense.
Le spa, c'est la tendance post-confinement, confirme Joël Pulinx, délégué général de la Fédération des professionnels de la piscine.
J'ai des adhérents qui me disent en ce moment, je vends un spa par jour. Ça répond vraiment à la demande de bien-être. Le confinement a généré finalement énormément d'envie de piscine. Le discours de tous les pisciniers, c'est multiplier par 2 ou multiplier par 3 le nombre de demandes à la base.
Un marché de la piscine qui n'est donc pas prêt de connaître la crise. Il emploie de façon directe ou indirecte 51 000 personnes dans le pays.
Et puis eux, ils replongent sur le ballon les footballeurs du championnat espagnol. Il reprend ce soir.
Merci Bernadette, c'était le journal de Bernadette Chamonaz.